grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Tu es vraiment autiste? Sors de ton autisme, un comportement autiste, les termes péjoratifs sur le trouble du spectre autistique pullulent. Ce matin, je vous propose de découvrir l'intelligence atypique des autistes, particulièrement dans les formes les moins sévères. Saviez-vous par exemple que le célèbre naturaliste anglais Charles Darwin souffrait sans doute d'une forme d'autisme, ce qui lui permit ses découvertes sur l'évolution de l'espèce humaine? C'est ce que nous dirons nos invités. Bien évidemment, l'autisme est un handicap, mais nous verrons que leur manière de penser, de voir, de ressentir le monde est hors norme. Dans le même temps, leur hypersensorialité, leur hypersensibilité, leur attention aux micro-détails, le fait d'être des caméléons sociaux est une source de fatigue et de stress intense. Il semblerait que ce soit le prix à payer pour leur intelligence atypique. Comment vivre cette force et cette fragilité? Comment les aider à exprimer au mieux leurs talents pour qu'ils ne souffrent plus à l'école, en famille, au travail, avec leurs amis, dans le couple? Y a-t-il une forte proportion d'autistes chez les surdoués, chez ceux qui sont dotés d'un haut potentiel intellectuel? Mais nous verrons d'abord ce qu'est exactement le trouble du spectre autistique et combattrons quelques idées reçues. Pour nous éclairer ce matin, le psychiatre David Gourion et la psychologue clinicienne Séverine Leduc et la journaliste Afsaneh Sabouy du mensuel Ça m'intéresse, sans oublier Aline Peyroudin, directrice de Santé Magazine. Si vous avez envie d'évoquer l'intelligence atypique des autistes, nous vous attendons au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Belle année à vous.
Bonne année à vous aussi.
Écrivain, médecin, auteur du blog Alors Voilà, chaque lundi vous nous proposez une médecine à visage humain.
Et ce matin je vais vous raconter un petit conte de Noël.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Séverine Leduc.
Bonjour.
David Gourion. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Odile Jacob Éloge des intelligences atypiques, sous-titré Pas comme les autres, plus que les autres. Qu'est-ce qui motivait l'écriture de ce livre, Séverine Leduc?
Alors, il y a 2 ans, on m'avait demandé d'écrire un livre, un espèce de que sais-je, sur le syndrome d'Asperger. Et puis finalement, j'ai pas trouvé de voie d'accès assez sympathique. Et en parlant avec David, on s'est dit que ça pouvait peut-être aider des patients, des enseignants, des familles qui sont concernées. Et donc, on a essayé de transmettre une information un peu vulgarisée tout en restant scientifique pour apporter quelque chose d'un petit peu nouveau sur cette particularité qui est moins connue.
On le verra tout à l'heure, le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme. Qu'est-ce que l'autisme, plus précisément appelé trouble du spectre autistique? Selon la Fondation Autisme, c'est un handicap neurodéveloppemental qui affecte de la façon dont une personne communique et interagit avec les autres et plus globalement avec son environnement.
Oui, le noyau dur en fait de cette particularité, si on évite d'utiliser le terme handicap parce que ça peut l'être mais ça peut aussi ne pas l'être, c'est ce qu'on appelle des problématiques de réciprocité émotionnelle. C'est-à-dire là je suis en train de vous parler Ali, donc je vérifie un petit peu comment vous réagissez pour voir si vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter, et mon cerveau automatiquement va faire ce traitement d'information et va réajuster mon discours en fonction de ce que j'imagine que vous ressentez, comprenez de ce que je suis en train de vous raconter. Et en fait dans l'autisme c'est ce lien qui se fait difficilement entre moi et l'autre, entre ma pensée et celle de l'autre. Et donc j'ai du mal à réajuster mon discours à ce que j'imagine que vous comprenez.
David Gourion, l'autisme, c'est une maladie, une pathologie psychiatrique?
Alors c'est un vrai sujet. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder sur les blogs d'échanges entre personnes du spectre autistique, la façon dont elles nous voient. Et en fait, on peut les trouver bizarres, mais elles nous trouvent tout aussi bizarres. Et elles nous voient comme des gens extrêmement superficiels, avec des mémoires de poissons rouges, menteurs, manipulateurs, incapables de faire autre chose que de tchatcher pour ne rien dire. D'ailleurs, il y a cette phrase connue, sans les autistes, l'humanité en sera encore à bavasser futilement au fond des cavernes sous la pluie. Il y a sans doute quelque chose de ça, c'est-à-dire que le maladie, ou en tout cas différence, diversité, neurodiversité, biodiversité, qui sont des termes qui peuvent amener à réfléchir sur le fait qu'il n'y a pas une seule forme, façon d'être humain, une seule forme d'intelligence, mais des formes différentes. Par contre, nous vivons dans une société qui est assez homogène et qui tolèrent peut-être assez mal les différences de fonctionnement. Et du coup, cette difficulté à tolérer ces différences peut entraîner de la souffrance, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, et que peut-être au final, la vraie souffrance, le vrai handicap, les vraies maladies sont plus les conséquences, non pas tant de cette neurodiversité, de ce câblage neuronal différent, cette lecture de la réalité différente, mais de la façon dont elle est mal appréhendée, mal vécue. Ce sont des gens qui sont souvent un peu harcelés au collège, considérés comme des geeks froids, sans empathie, alors qu'au contraire, on découvre qu'ils ont une richesse émotionnelle. On a écrit, évidemment, ce livre parce que ces personnes nous touchent, on en voit beaucoup, beaucoup sont diagnostiquées, beaucoup ont été maltraitées, diagnostiquées schizophrènes ou TOC ou plein de choses qui correspondent pas forcément à leur réalité. Et ces personnes nous touchent, elles nous obligent aussi d'une certaine façon par leur naïveté qui est très touchante. Hein. Moi, ils me font penser à ce que Lévinas disait sur le visage de l'autre nous oblige. Enfin, Dostoïevski l'écrit autrement quand il dit « Nous sommes responsables de tout et de tous devant chacun, et moi plus que les autres. » Et ce « moi plus que les autres », on le ressent beaucoup face à ces personnes. On a étudié aussi dans le livre la question des femmes qui souvent sont non diagnostiquées. Et Séverine l'expliquait très bien, cette difficulté à comprendre l'esprit de l'autre. On peut être très intelligent, mais avoir du mal à dépister l'implicite qui font qu'elles se retrouvent souvent dans des situations où elle décrypte mal les situations de séduction, et souvent, nous on est tombé sur des chiffres, ça a été assez peu étudié, de risques d'agression sexuelle majeure. Donc ces personnes nous touchent, elles ont une place importante dans la société, et on avait envie de contribuer à leur réhabilitation et à leur donner une voix plus forte.
Bonjour Afsane Saboui, vous êtes journaliste mensuel Ça m'intéresse, et ce mois-ci vous administrez une belle claque aux idées reçues sur l'autisme. Alors, une idée reçue tenace veut que les autistes ne ressentent pas les émotions. Pour Bertrand Jacques, le président de la Fondation Autisme, c'est une bêtise vertigineuse de dire ça.
Oui, en fait, c'est presque des gens qui sont hypersensibles, et donc du coup dire qu'ils ne ressentent aucune émotion, c'est une aberration. C'est juste qu'ils les analysent pas de la même façon que nous et qu'ils ont du mal à interpréter les nôtres, mais dire qu'ils n'en ressentent pas du tout, c'est d'une aberration et c'est d'une violence en plus qui est terrible.
Séverine Leduc.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ils ressentent les émotions, d'ailleurs, un peu de manière brute de décoffrage, mais ils ont du mal à mettre des mots dessus ou à les exprimer à l'extérieur. Donc, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'empathie, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'émotion. Et en fait, c'est faux, c'est juste qu'ils ne le montrent pas. Et quand on leur donne les clés pour décoder ce type de ressenti, eh ben là, ils sont tout à fait à même d'exprimer ce qu'ils ressentent réellement.
David Gourion.
Et souvent, ils comprennent après coup, ils ont ce que Rousseau appelait l'esprit d'escalier, c'est-à-dire c'est après coup qu'ils vont comprendre ce qui s'est passé dans la situation.
Baptiste Beaulieu.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de repenser à mes études où beaucoup d'idées préconçues sont parfois enseignées, parfois galvaudées comme ça auprès des étudiants, notamment avec les vaccinations, ce qu'on peut lire sur Internet aussi, quand on est étudiant, qu'on se renseigne, tout ça. Et je crois que c'est très important de faire un travail de ce qu'on a, je sais pas le terme français, de débunkage, auprès de la population, de dire, la réalité des personnes en situation d'autisme, c'est ça, c'est celle-ci, elle est plurielle, elle est protéiforme et elle est belle parce qu'elle représente le vivant visage de la diversité du genre humain, et ici des intelligences humaines.
David Gourion, pourquoi parle-t-on de troubles du spectre autistique ? C'est parce que l'autisme s'exprime de manière très différente d'un individu à l'autre ?
Exactement, et parce que plutôt que de considérer autiste, pas autiste, on peut réfléchir sous forme d'un spectre, c'est-à-dire des formes extrêmement sévères de ces enfants. On a des images évidemment dramatiques et il serait insultant pour les familles de ces enfants que de dire l'autisme c'est génial, c'est etc. Il peut y avoir évidemment des formes dramatiques et terribles, mais aux confins du spectre et quasiment aux limites de ce qu'on pourrait appeler la normalité au sens statistique et pas humain, on a des formes extrêmement légères avec des gens très bien insérés dans la société, qui bien souvent eux-mêmes ne le savent pas, qui sont souvent surreprésentés dans les professions scientifiques de haut niveau, mais aussi chez les musiciens, on pense à Glenn Gould, chez les philosophes, chez certains historiens, et qui sont des personnes pour qui on peut avoir une très grande admiration pour leur puissance intellectuelle, mais dont on va se rendre compte souvent que ce sont des personnes un peu isolées, qui ont du mal à nouer des liens, qui ne sont pas des grands mondains. Et là encore, dire c'est une maladie, c'est lié potentiellement à un vaccin, etc., c'est vraiment nier cette différence-là. Je pense que pour certains, alors après on aborderait les choses, pourraient rentrer dans quelque chose de plus compliqué et de plus philosophique, mais certains tenants du mouvement de la neurodiversité aux États-Unis, ça n'existe pas encore aussi fortement en France, mais il y a une sorte de pride de la neurodiversité, de fierté, font le lien un peu avec la vision passéiste qu'il y avait de l'homosexualité sur le mode « c'était une maladie ». Je rappelle que jusque dans les années 80-90, c'était dans les manuels de psychiatrie considéré comme un trouble qu'il fallait soigner. Et puis, on s'est rendu compte que non, c'était juste une diversité, une façon différente de fonctionner. Peut-être qu'il y a quelque chose de commun aussi.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
On associe souvent les personnes à haut potentiel intellectuel avec les personnes atteintes d'autisme. Vous pouvez expliquer bien la différence ou les liens, justement ?
Alors merci d'apporter cette question parce que ça a été une des motivations fortes pour l'écriture de cet ouvrage qui était le sentiment qu'il y avait eu quelque chose de très marketing autour du diagnostic de haut potentiel, sachant que ça n'est pas un diagnostic, c'est dans aucune classification médicale parce que ça n'est pas une maladie. Et l'idée reçue étant que les enfants qui ont des difficultés scolaires, qui sont anxieux, sont souvent au potentiel intellectuel, autrement dit, l'idée un peu fallacieuse avec ce diagnostic un peu glamour et finalement très narcissisant pour les parents, si votre enfant a tant de difficultés sociales à l'école, d'anxiété, c'est qu'il est haut potentiel. Et c'est très bien, une fois qu'on a dit ça, on a rien dit, circuler, il n'y a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas de prise en charge du haut potentiel intellectuel. Et en fait, ce que les études montrent, c'est qu'en réalité, la plupart des gens haut potentiel intellectuel n'ont pas de difficultés particulières et sont même plutôt en situation de réussite à l'école. En réalité, les hauts potentiels intellectuels qui consultent, c'est-à-dire qui vont chercher des soins, et c'est de cela dont on parle, ont une prévalence sans doute relativement élevée de troubles du spectre autistique. Selon les études, c'est difficile de savoir parce que c'est pas encore hyper bien étudié, mais autour de 40%, c'est-à-dire que dans les populations cliniques, c'est-à-dire les gens qui vont voir des psychologues ou des psychiatres, mon enfant a un haut potentiel intellectuel, il est en difficulté, on est probablement sur des probabilités assez élevées d'avoir un trouble associé, et donc il serait licite, opportun, utile d'aller un peu plus loin et d'aller explorer ces difficultés, parce que là, pour le coup, on peut apporter, c'est vrai d'en parler, des clés. On peut faire des groupes d'habileté sociale pour ces enfants, pour ces adolescents, leur expliquer, tu vas voir, c'est vrai que les gens fonctionnent de façon tout à fait illogique, les conventions sociales, c'est totalement absurde, il y a le mensonge, mais on va t'apprendre, on va t'aider, et pas juste te dire t'es trop intelligent pour pouvoir fonctionner.
Petite question, est-ce que les formes les plus sévères d'autisme sont les plus répandues, David Gourion ?
Non, sont probablement la pointe émergée de l'iceberg. Et en fait, les formes les plus light, les plus légères, sont les plus fréquentes.
Allez, n'hésitez pas à témoigner sur l'intelligence atypique des autistes au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation Stéphanie Texier. Hot summer night. I got a bad Jacqueline Martin à 10h23 sur France Inter.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et ce matin, on s'intéresse à l'intelligence atypique des autistes. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Avec nous, David Gourion et Séverine Leduc, les auteurs d'Éloge des intelligences atypiques, et Afsané Saboui de Ça m'intéresse. Alors, Baptiste Beaulieu a brièvement évoqué tout à l'heure les liens entre vaccination et autisme. Éclairez-nous peut-être, Afsané Saboui, sur cette idée reçue.
Alors, pour le coup, c'est vraiment une fake news, voire même une fake study. En fait, c'est en 98, Andrew Wakefield, qui est un chercheur britannique, publie une étude dans un grand journal respecté médical, où il établit un lien entre la vaccination contre le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme. Et en fait, il se trouve que l'étude était fausse, c'était une fraude, elle a été retirée, ce qui est une procédure extrêmement rare en science. Et donc, pour le coup, c'est vraiment, il n'y a aucun lien établi et c'est absolument pas démontré. Donc, c'est une vraie fake news, c'est une idée reçue qu'il faut absolument oublier et combattre.
Baptiste Beaulieu.
Je crois même qu'il avait reçu un peu d'argent de la part de cabinets d'avocats qui avaient prévu d'attaquer les fabricants de vaccins, justement. Et ce qui est intéressant, c'est sur le plan des idées scientifiques, c'est que son étude a voyagé dans le monde entier, mais quand il a été désavoué, c'était trop tard. On pouvait faire tous les papiers du monde. Sa première étude avait tellement voyagé dans le monde entier que c'était trop tard.
Et ça s'est même vu dans ça s'est même vu dans la vaccination en Angleterre, où il y a eu une chute dans la vaccination contre le ROR parce que les gens ont été sensibles à son étude. Donc vraiment, c'est une fausse idée.
Le ROR, rappelez ce que c'est.
Rougeole, oreillon, rubéole.
Voilà, c'est mieux en français. Beaucoup de questions sur la détection de l'autisme. Quels sont les premiers signes perceptibles? À quoi doivent faire attention les parents dans les premiers mois, dans les deux premières années, Séverine Leduc?
Alors là, c'est très compliqué comme question, parce que c'est tellement protéiforme, pardon, je dis des gros mots, protéiforme, ça veut dire que ça prend plein de formes très très différentes, en fonction du degré et d'atteinte d'autisme. Certains enfants vont avoir des manifestations extrêmement précoces, dès les premiers mois de la vie, avec des problèmes de contact visuel, de manque de regard, manque de sourire, ce genre de choses. Certains enfants ne vont émettre des signes vraiment manifestes d'autisme que vers l'adolescence, quand les interactions sociales vont se complexifier. C'est pour ça qu'on parle de spectre autistique et que c'est difficile aussi par moment de repérer certaines manifestations quand on est dans le bout justement très léger du spectre.
Vous ne me ferez pas croire que cette réunion vous étonne. Vous avez essayé de l'engager en douce.
J'ai épluché son parcours comme je le fais pour chaque candidat.
Vous n'avez pas envisagé que ce conseil d'administration puisse émettre, et à juste titre, quelques doutes sur le fait d'engager un chirurgien autiste? Expliquez-nous votre décision.
J'ai rencontré Sean Murphy alors qu'il n'avait que 14 ans. Je vivais dans le Wyoming à ce moment-là. À l'époque, c'était un jeune homme extraordinaire. C'est toujours le cas aujourd'hui, croyez-moi, car s'il est atteint d'autisme, il présente le syndrome du savant également. Il fait preuve dans de nombreux domaines d'aptitudes exceptionnelles. Il a une mémoire presque absolue, une représentation spatiale extraordinaire. Il voit les choses et il les analyse avec un regard différent. C'est tout à fait remarquable. Il nous offre une vision du monde qu'on ne saurait même pas entrevoir. Considérez ça comme un atout indéniable pour n'importe quel médecin. En particulier un chirurgien.
Le héros de la série The Good Doctor sur TF1, un bel exemple de l'intelligence atypique des autistes. Quand on parle d'autisme, on entend souvent parler du syndrome d'Asperger, associé à une intelligence de haut niveau. Expliquez-nous ce que c'est, David Gourion.
Alors, Asperger avait décrit des enfants qui avaient une acquisition très précoce du langage. Il les appelait mes petits professeurs. Des enfants qui étaient capables justement d'avoir une sorte d'hypermaturité, un peu d'adulte, et pouvaient être très 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 étonnants dans leur capacité justement très précoce à avoir des intérêts très pointus, très spécifiques. Et on voit des enfants de 9 ans, 10 ans, spécialistes de l'économie ou de la politique ou de l'astrologie. On entendait le juste avant un extrait de Good Doctor. Et finalement, c'était une jolie idée de notre éditrice Odile Jacob que de proposer comme sous-titre « Pas comme les autres, plus que les autres », parce qu'il peut y avoir ce quelque chose en plus aussi. Autrement dit, la question du handicap, oui, dans certaines situations, mais parfois aussi une grande force.
Pas toujours quand même, hein, ceci dit, parce que ce syndrome un peu du savant, on peut l'observer sur des intérêts spécifiques qui sont pas toujours très évidents à partager avec ses pairs. Quand vous êtes spécialiste des médailles militaires de Napoléon à l'âge de 9 ans, c'est pas forcément très intéressant sur le plan social, et ça, ça peut provoquer des moqueries.
Bonjour Christian Jacques, bienvenue.
Merci à vous de m'accueillir.
Vous appelez de Champagne-Ardenne. Alors vous, vous êtes un autiste Asperger. Vous avez 52 ans. Vous avez été diagnostiqué, c'est ça, à l'âge de 18 ans?
Oui, c'est en fait, y a eu d'abord le médecin de famille qui a dit à ma maman, je dirais quand il était venu soigner mon frère, il y a un problème parce qu'il me voyait, je me balançais d'avant en arrière. Et ma mère lui a expliqué qu'une bonne partie de la nuit, je me balançais de droite à gauche. Mais j'ai eu la chance, entre guillemets, à l'époque, parce que je suis né en 66, qu'on s'est pas plus attardé que ça sur le problème, parce que j'ai pu avoir une scolarité de ce fait normal. Jusque, j'irai en troisième, où on m'a empêché, entre guillemets, de pouvoir avoir accès aux études, parce que je pensais de façon différente. Et c'est là où je voudrais vraiment, j'irai témoigner, parce que, c'est cette difficulté d'être accueilli parce qu'on pense de façon différente. Et par exemple, en mathématiques, jusqu'au CM2, j'étais assez hors norme dans ma capacité de répondre aux problèmes. Je rajoutais des hypothèses et j'avais un fonctionnement analytique, analogique plutôt, pour trouver la résolution des problèmes différents de mon professeur. Mais quand je suis arrivé en sixième et quand on est passé à l'algèbre, je suis passé dernier de la classe, simplement parce que j'avais pas compris que, pour moi, des lettres, ça, on pouvait pas additionner des lettres, c'était pour faire des mots.
C'est vrai, logique.
Et donc, simplement pour cette différence, j'étais premier en sciences physiques et j'étais dernier en mathématiques.
C'est toute la problématique qu'on rencontre effectivement dans la scolarité de ces personnes. L'apprentissage académique est assez normé, et en France encore plus, et encore plus marqué je pense que dans les pays anglo-saxons, où du coup on demande aux élèves de répondre à un certain type de questions pour lesquelles ils ne sont pas forcément câblés, ce qui évidemment provoque des difficultés quand on pense différemment.
Comment vous vivez aujourd'hui, Christian Jacques, votre autisme Asperger ?
Eh bien, aujourd'hui, je le vis bien, j'allais dire, dans le sens où j'ai cherché à sortir, à devenir normal. Toute ma vie jusqu'à ces dernières années a été l'objectif de devenir normal, et j'ai beaucoup cheminé. J'ai fait un cursus d'ostéopathie, de naturopathie, de médecine chinoise. J'ai parcouru le monde, j'ai travaillé avec des chamans, j'ai travaillé avec les guérisseurs philippins. Ça fait 30 ans que j'étudie pour pouvoir devenir normal, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle cette fameuse libération. Et découvrir que cette libération n'allait jamais me libérer de mon autisme. Mmh. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « De l'autisme à l'éveil », qui est en train de sortir, et où je témoigne de tout cela, ma spécificité, et surtout de faire tout à l'envers. Et donc je peux pas appréhender un concept. Par exemple, quand j'ai fait médecine chinoise, j'ai accepté d'étudier pendant 4 ans sans rien comprendre. Et une fois que j'ai la finalité, je peux reprendre tout dans l'autre sens. Et là, j'arrive à intégrer et associer les choses que beaucoup n'arrivent pas à associer.
Merci beaucoup, hein, Christian Jacques, d'être intervenu ce matin. Alors, David Gourion, Séverine Leduc, votre livre, c'est un formidable plaidoyer pour la neurodiversité. Expliquez cette notion inventée par l'Australienne Judy Singer, mère d'un enfant autisme. Et la neurodiversité, d'ailleurs, pose la question de la normalité.
Oui, exactement. En fait, la neurodiversité, c'est l'idée que, finalement, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, il y en a plein. Et que c'est pas parce qu'on rentre pas dans un moule classique qu'on rencontre très fréquemment, donc la neurotypicité, finalement celle qu'on rencontre un peu le plus fréquemment possible, qu'on n'est pas forcément normal, et ces termes-là sont extrêmement compliqués à manipuler, parce que qui est normal, qui ne l'est pas, c'est vraiment une autre façon de penser, cette idée de la neurodiversité. D'autres pathologies qu'on nomme pathologies initialement, s'en emparent, notamment toutes les personnes qui subissent des troubles déficitaires de l'attention hyperactivité, toutes les personnes qui subissent des troubles 10, s'en emparent noir également, pour montrer que c'est une autre façon de penser le monde, c'est une autre façon de voir les choses.
Dyslexie, dyscalculie.
Dysorthographie, dyscalculie, ouais. Dysexécutif, voilà, il y a des dys, il y en a plein. Ouais. Qui, donc, en fait, ont d'autres formes de pensée du monde et qui se retrouvent en difficulté finalement quand on leur demande des choses un peu classiques.
Est-ce que les personnes du spectre autistique ont une organisation cérébrale différente des autres?
Oui. Absolument. Vous savez, les neurosciences, l'imagerie cérébrale ont fait des progrès considérables. Et s'il fallait résumer, il y a une sorte de cerveau hyper connecté chez les personnes autistes, c'est-à-dire une plus grande densité neuronale dans certaines régions et donc une analyse du détail et une hypermnésie et une hypersensorialité, on n'en a pas parlé, qui peut permettre d'expliquer aussi, le monsieur tout à l'heure parlait de balancement, c'est-à-dire que tout est tout le temps intégré sans filtre. Nous, on filtre l'information, vous me parlez, je me concentre sur ce que vous me dites, mais les personnes autistes disent souvent que tout est intégré, tous les petits bruits, tous les petits sons, avec une acuité très forte. Et cette hyperconnectivité rend compte d'une fatigue terrible, surtout quand l'environnement est un petit peu stimulant. Et à l'inverse, une moins grande densité de fibres longues qui tentent à connecter des régions, un peu le chef d'orchestre du cerveau, c'est-à-dire qui ont plus de difficultés, qui rendent compte des plus grandes difficultés à interpréter le contexte. Parler du contexte social tout à l'heure. Donc oui, des différences. Et alors certains chercheurs ont tenté d'aller plus loin et d'essayer de comprendre pourquoi ces différences ont perduré, pourquoi cette fréquence. On sait qu'il y a une forte contribution génétique, hein, les études de jumeaux l'ont bien montré. Il y a une discipline qui s'appelle la psychologie évolutionniste, qui est spéculative mais intéressante, et qui tend à dire que finalement, dans certains isolats environnementaux, vous savez que notre cerveau a peu changé en 10 000 ans. 10 000 ans, on vivait dans la jungle. Certains isolats, on vivait en tribu et c'était bien de pouvoir avoir la tchatch parce que c'était ce qui permet de survivre au sein d'une tribu. Mais dans d'autres endroits, on vivait en tout petits groupes. Il valait mieux avoir une très fine analyse du détail, en particulier des prédateurs, du serpent caché dans les feuillages, et que c'était beaucoup plus utile que de savoir tchatcher.
J'aimerais qu'on revienne sur cette hypersensorialité. C'est quoi? C'est une synesthésie, c'est-à-dire la fusion des sens, une hypersensibilité olfactive, tactile, visuelle.
Alors ça peut être de la synesthésie, mais pas que. C'est assez rare quand même la synesthésie, mm-hmm. hein, cette association entre un sens et l'autre, c'est-à-dire mm-hmm. Des personnes qui entendent des sons en couleur. J'ai une patiente qui sent des odeurs et immédiatement a des images de géométrique qui se crée dans sa tête, ce qui lui permet d'être goûteuse de vin. Donc c'est assez fabuleux, mais c'est quand même une compétence assez rare. Ce qu'on appelle par hypersensorialité, c'est cette capacité à percevoir les moindres stimulations environnementales de manière très forte, sans filtre. Donc là, on est dans un studio où, là, comme je suis un peu sensible à l'autisme, je fais un peu plus attention maintenant à ce genre de choses, mais on entend la ventilation. Et moi, ça ne me gêne pas pour vous parler. Un autiste, ça peut fortement le gêner parce que cette information est traitée au même niveau que ce que vous êtes en train de dire.
La trop forte lumière des spots, par exemple,
aussi,
au-dessus
exactement.
De nous.
Tout ça, tous les moindres bruits. J'ai des patients qui supportent pas le bruit d'un chargeur branché sur une prise électrique quand il n'est pas connecté à un téléphone, parce que ça émet apparemment une certaine fréquence que moi je n'entends pas, mais que eux sont capables de traiter.
Tout ça, ça génère de la fatigue, du stress.
Exactement, ce sont des cerveaux qui sont plus fatigables que les autres, et un des grands enjeux thérapeutiques, c'est de prendre soin de son cerveau quand on a ce diagnostic-là, de leur dire « faites attention, vous êtes plus fatigable que les autres, ne consommez pas trop d'énergie ».
Aline Perraudin.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à ressentir un burn-out ou ces personnes?
Alors, c'est une des entrées diagnostiques, c'est-à-dire qu'énormément de patients autistes entrent en consultation pour des burn-out cognitifs qui ressemblent à des dépressions et qui en fait sont des saturations, ils sont épuisés psychiquement, par les contacts sociaux, parce qu'ils cherchent la normalité, comme le disait très bien le témoignage tout à l'heure, je cherche à être normal, donc s'épuise à essayer d'adopter des comportements qu'ils ne peuvent pas adopter, et puis traite ces informations en permanence et donc n'arrive plus.
Et rien de pire que l'open space hein, pour ces
tout
personnes. Mais on imagine l'école aussi, hein, la cantine, c'est horrible, c'est pour ces enfants. Une cuillère qui tombe par terre, ils voient un éclair, enfin c'est très, très pénible.
David Gourion, pour le spécialiste Simon Baron-Cohen, le mode de fonctionnement cérébral des autistes est de type S comme systématique en opposition au type E comme empathique.
Oui, alors c'est sans doute une conception qui est aujourd'hui remise en cause parce qu'il y a aussi une compétence empathique. Je demandais à un patient autiste, est-ce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'empathie chez les autistes, et il me disait, il n'y a pas d'empathie parce que je ne ressens pas forcément les émotions dans la situation. mais je suis très altruiste. Et quand j'y repense après, quand j'ai cette reconstruction cognitive a posteriori, intelligente de la situation, là je souffre beaucoup pour la personne. C'est intéressant comme vision, c'est pas fluide, immédiat, en temps réel comme nous le vivons, mais c'est reconstruit après et avec une grande sensibilité à l'autre en réalité.
Allez, il est l'heure de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, médecin, écrivain, chaque lundi, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Oui, ce matin, je pose une petite question. Voilà. Est-ce que l'amour peut sauver quelqu'un? Alors, c'est une question naïve, qui est volontairement naïve, je veux dire. Même qu'on croirait une exergue d'un petit roman de Francis Issou. Mais je me suis dit qu'en ce début d'année, c'était bien peut-être de commencer avec une belle histoire, un petit conte de Noël. Ça ne pouvait pas nous faire de mal. Donc l'histoire que je partage commence un mercredi, un long mercredi d'hiver, lors d'une longue soirée de Noël. On pourrait dire qu'il neige en montagne pour nous ambiancer un peu. Et même si ce n'est pas vrai, c'est moi qui raconte. Donc, nous sommes dans un petit hôpital. Une infirmière en pédiatrie est de garde ce soir-là. Les petits patients défilent, gastro, grippe, bronchiolite. Bref, c'est l'hiver aux urgences pédiatriques. Et puis, il y a ce petit garçon, 3 ans et demi, de beaux cheveux bouclés, des yeux pétillants. Il a passé l'après-midi chez son papy, toujours très sage, souriant, heureux dans la vie. C'est un enfant en pleine santé qui partage son bonheur avec tous ceux qu'il côtoie. Voilà comment l'infirmière qui m'a envoyé cette histoire me le décrit. Mais cet après-midi, soudainement, il a eu un épisode d'absence. Pas longtemps, 30 secondes peut-être, mais on lui parlait et c'était comme s'il n'était plus là, comme si son esprit avait subitement déserté son corps. Voilà, c'est ça une absence. Et tout à coup, quand il est revenu à lui, s'en est suivie une crise de larmes inconsolable. Alors c'est pas son habitude d'agir comme ça, ni de pleurer comme ça, et ça a un peu déboussolé son grand-père. Alors le grand-père le prend sur ses genoux, le serre fort dans ses bras et pose sa tête contre la sienne, longtemps, tendrement, jusqu'à ce que le petit finisse par s'apaiser. Et que ses larmes sèchent. Et papy, l'oreille collée contre la tête de son petit-fils, dans le silence qui suit la tempête, papy l'entend un murmure, un minuscule souffle sous le crâne, comme une brise dans la montagne sous la neige qui tombe. Alors le motif d'entrée aux urgences semble un peu cocasse, j'entends le vent souffler dans le cerveau de mon petit-fils. Mais ce câlin d'un vieil homme à son petit-fils lui a probablement sauvé la vie. Parce que l'enfant, voyez, il avait une malformation artério-veineuse cérébrale qui s'était manifestée très discrètement ce jour-là, mais que papy a entendu et que les soignants ont su détecter à temps. Il a été opéré le lendemain. Et l'infirmière, ce soir-là, elle me dit que pour elle, elle emporte ce cas dans sa tête et dans son cœur. Elle l'emporte comme la preuve que l'amour d'un grand-père peut sauver une vie. Et si je le partage ce matin, ce cas, c'est juste parce que dans la vie, globalement, on manque de munitions contre le cynisme qui nous guette parfois, surtout quand on est soignant.
Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu. Toutes les vidéos de vos chroniques sont à voir sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur le site de France Inter et sur le blog. Alors voilà, allez, dans quelques instants, nous verrons pourquoi les personnes du spectre autistique sont des caméléons sociaux. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000.
La lumière.
Léa Vincent interprétait Nuit sans sommeil.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h43 et ce matin on s'intéresse à l'intelligence atypique des autistes. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Pour nous éclairer ce matin, le psychiatre David Gourion et la psychologue clinicienne Séverine Leduc et Afsané Saboui du mensuel Ça m'intéresse. Une idée reçue issue de votre papier dans Ça m'intéresse ce mois-ci. Une idée reçue tenace sur l'autisme qui veut que les parents et les mères en particulier sont responsables de l'autisme de leur enfant.
Ouais, et c'est vraiment la double peine, parce que c'est particulièrement faux. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc en fait, tout est joué avant la naissance de l'enfant. Et incriminer, ou la mère ou le père, mais en l'occurrence, c'est la mère qui est incriminée, ça n'a aucun sens. Le dysfonctionnement, en tout cas, le trouble est déjà établi au moment où l'enfant naît, et c'est pas un problème d'attachement ou quelque chose qui serait hyper culpabilisant pour les parents.
Et les parents d'autistes ne disent pas merci au psychanalyste Bruno Bettelheim, hein, Séverine Leduc.
Non, ça c'est effectivement, c'est une vieille description obsolète qui n'a plus lieu d'être, donc je pense qu'il faut la balayer assez rapidement.
Je suis un mec bizarre, enfin c'est ce que tout le monde dit. Parfois je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent, ce qui fait que je me sens seul même lorsqu'il y a d'autres personnes dans la pièce. Alors tout ce que je peux faire c'est m'asseoir et tripoter un objet, c'est ce que j'appelle mon comportement d'autostimulation. Je tapote un stylo contre un élastique à une certaine fréquence et je pense à ces trucs que je ferais jamais, comme étudier les manchots en Antarctique ou avoir une copine, je sais pas. Je veux aller en Antarctique. C'est calme là-bas. À part dans les nids où les manchots se reproduisent. Oui, là, c'est bruyant. J'ai terminé ma réponse.
Bonne séance, Sam.
Je vois ton soutien-gorge. Il est pourpre.
Hey, Sam, tu me disais tout à l'heure que tu pouvais pas avoir de petite amie. Les personnes souffrant d'autisme flirtent, tu sais. Tu peux essayer de trouver une copine. Si t'en as envie.
Comment?
Il faut simplement que tu te jettes à l'eau.
Quelle eau?
Un extrait de la série Atypical sur Netflix, l'histoire d'un ado autiste qui décide de trouver une petite amie. C'est une série que vous aimez beaucoup, hein, Séverine Leduc.
Oui, je l'aime mieux que The Good Doctor. Je la trouve un peu. Je trouve que l'environnement du personnage est un peu plus sympathique que dans l'autre série.
Bonjour Catherine Pasquet, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes présidente. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Écoute Parents Enfants Autistes. Vous avez 4 enfants, dont un autiste, Romain, né en 2002. Qu'est-ce qui vous frappe dans l'intelligence de Romain?
Eh bien, moi, depuis le début de cette pathologie qui nous est apparue un peu bizarrement, pour moi, voilà, Romain, c'est un petit garçon dont le qualificatif est extraordinaire. Mmh. Voilà, j'ai compris que effectivement il fonctionnait autrement que nous, et ce mode de fonctionnement, voilà, quand on rentre dedans, tout devient clair. En fait, j'ai cru au début qu'il était sourd. Il n'était pas sourd du tout, au contraire, il avait une hypersensibilité auditive. Et ensuite, je me suis dit, s'il est pas sourd, il répond pas à son prénom, etc. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou, et en fait non, il est tout simplement autiste, et son autisme qui fonctionne autrement que nous, et plus on avance dans le temps, je vis avec lui 24 heures sur 24 et plus il m'apprend des choses. Il est juste extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire justement, votre petit Romain? Enfin, il est plus petit, il a quand même 16 ans aujourd'hui.
Ah non, maintenant il me dépasse facilement de 2 têtes, mais non, il est plus petit, mais bon, il est en fait, il a ce mode de fonctionnement où les choses sont d'une logique implacable. Voilà, c'est une chose en entraîne une autre, et ça ne peut pas fonctionner autrement. Pour lui, il ne comprend pas le mensonge, il ne comprend pas l'hypocrisie, tout ça, c'est des choses qui sont loin de lui. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça peut poser problème parce qu'il est très cash dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, mais c'est vraiment très sincère, et voilà, il a des capacités hors normes, il a un GPS dans la tête, il a une mémoire incroyable, voilà, toutes ces choses-là, et en fait, quand on se sert de ce qu'il fait positivement, et puis qu'on essaye de remédier à ses problématiques qu'il a, de difficultés de comprendre notre monde à nous, bah en fait, voilà, on a quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je dis beaucoup que je suis une autre personne depuis Romain, en fait.
Et comment vivez-vous au quotidien cette hypersensibilité, cette manière différente de penser, de voir le monde ?
Alors, c'est vrai que c'est pas simple au quotidien parce que effectivement c'est pas mon mode de fonctionnement à moi. Mais maintenant que j'ai la chance qu'il soit un peu en interaction, parce que c'était pas le cas au début, il était non verbal et c'était très compliqué. Il s'est mis à parler autour de l'âge de 6 ans, mais par contre il n'avait pas de, il n'y avait pas d'interaction, donc il était devenu verbal mais non communicant. Ça c'était vraiment très difficile à accepter. Et puis voilà, petit à petit, et bien aujourd'hui, je dis pas que j'ai des grandes conversations avec lui, mais il peut m'expliquer certaines choses que sur le coup j'ai du mal à comprendre. Et c'est vrai que il dédramatise beaucoup de situations. Par contre, il y a d'autres situations dans lesquelles il est bloqué parce que pour lui, ça ne fait pas sens. Et quand ça ne fait pas sens, il ne peut pas avancer.
Donc
il faut détricoter des choses pour retricoter autre chose avec lui.
Ah, vous voulez que je réagisse par rapport à ça ? Oui, en fait, on voit bien ce développement très particulier de l'enfant où il n'a pas un développement initial qui est classique avec un développement du langage à l'âge qui est attendu. Et pourtant, il est capable ensuite, à l'âge de 16 ans, de développer des capacités langagières adaptées et de communiquer. Et ça, je pense qu'il faut se méfier beaucoup aussi de ce qu'on pourrait attendre d'un enfant autiste dans le futur, parce qu'un enfant peut mal commencer sur le plan de la communication et acquérir des compétences extrêmement intéressantes par la suite. C'est ce que dit beaucoup Hugo Auriol aussi, cet auteur dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu un début très difficile et qui finalement aujourd'hui est acteur, écrivain. Voilà.
Catherine, vous restez avec nous parce que vous avez peut-être éclairé Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Bienvenue, vous habitez Bordeaux. Votre fils a un trouble autistique, il ne va pas à l'école et il a pourtant, selon vous et selon votre entourage, des capacités hors normes.
Oui, il va pas à l'école parce que ça a été extrêmement compliqué pour lui à l'entrée de la maternelle et que physiquement il se dégradait, quoi, il s'en prenait à lui-même. Donc et puis c'est surtout l'incompréhension entre autres de la directrice de l'école, des gens qu'on a rencontrés, etc., qui à un moment donné m'a fait prendre la décision de trouver une autre solution pour lui sur le moment, quoi. Donc il est parti en institut. Et maintenant, c'est un peu le problème inverse, c'est-à-dire à quel moment il va pouvoir rentrer dans un circuit classique et comment gérer du coup ses aptitudes qui développent de plus en plus, quoi. Donc voilà.
Quelles aptitudes, Cécile ?
Il a un fort potentiel en mathématiques. Alors, je sais pas si on peut dire mathématiques, enfin les chiffres en tout cas. Donc il a commencé à apprendre par lui-même d'une certaine façon. Hein. Il s'intéressait beaucoup grâce à une BD que j'ai, Pénélope Bagieu, là, c'est sur les femmes là. Donc il y a les dates de naissance et de mort, ils sont mortes. Et donc il a commencé à calculer comme ça. Donc en fonction de leur date de naissance et de mort, quel âge elles avaient quand elles étaient mortes, etc. Et ensuite, il a développé tout un circuit de calcul comme ça. Et là, il en est à s'intéresser à tous les rois de France, par exemple. Donc, il connaît toutes les dates de naissance, de mort, le temps où ils ont régné, quel âge ils avaient quand ils étaient morts. Voilà. Et puis, il a développé aussi l'intérêt pour l'histoire en ce moment. Hein. Donc, il développe de plus en plus autour de tout ça. Là, il s'intéresse à... Il a des livres, il a choisi des Larousse pour Noël. Et donc, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Mais par contre, il va sur Internet, il tape les dates qui l'intéressent et il tombe sur tout ce qui l'intéresse.
Il a 7 ans, votre fils.
Martin Luther King ou n'importe quoi d'autre. Et ensuite, moi, je lui explique les histoires pour qu'il puisse comprendre à quoi ça fait référence. Quoi.
Il a 7 ans, votre fils. Hein.
Il a 7 ans, oui.
Catherine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cécile qui est un peu inquiète, hein, qui a peur que son fils ne parvienne pas à s'intégrer dans la société? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Moi, j'ai créé une association, effectivement, pour pouvoir faire que ces enfants soient avec les autres, parce que moi, j'estime que un enfant autiste doit avoir une vie avec les autres enfants. Il faut qu'il ait un minimum d'école, il faut qu'il ait un minimum d'activité extrascolaire. Par contre, il a besoin effectivement aussi de soins, et il a besoin de remédiation cognitive. C'est ce que nous faisons, nous, dans l'association. On s'occupe d'enfants, on les met en relation ensemble, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas de fait. Romain, moi, c'est mon quatrième enfant. Je fais beaucoup de comparaisons avec ce qui s'est passé pour les trois autres, ce que je leur ai appris et ce qu'ils ont appris finalement seuls. Or, Romain, il peut tout apprendre à partir du moment où on le lui enseigne. Et je m'aperçois que, par exemple, être avec les autres, c'est pas simplement parce qu'il est scolarisé qu'il peut apprendre ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut orchestrer, qu'il faut mettre vraiment en lumière pour lui. Il faut qu'il soit en situation pour pouvoir avancer. Et donc, c'est ce que l'on fait dans l'association. Et je côtoie énormément de familles. Et je me rends compte que lorsque les enfants quittent le circuit ordinaire, c'est un petit peu compliqué d'y retourner. Moi, je me suis beaucoup battue. Romain a été scolarisé deux fois quand il était plus jeune. Je me suis battue pour qu'il soit rescolarisé. Pas à outrance. Hein. J'avais besoin qu'il soit à minima à l'école parce que j'estime que voilà, c'était important pour lui. On a construit et on continue à construire autour de lui un chemin qui lui est propre. Aujourd'hui, il est en classe de troisième. On travaille sur c'est une grosse année de transition qui est compliquée à vivre.
Merci.
Je connais parfaitement jusqu'à
merci beaucoup,
16 ans.
Catherine.
Là, je sais pas.
Merci beaucoup Catherine Pasquet et Cécile d'avoir témoigné ce matin. Alors, on l'a dit, hein, l'autisme est un trouble de la communication avec son environnement. Comment font-ils pour adopter les autistes, leur comportement social? Ils adoptent des stratégies de caméléons sociaux, docteur David Gourion?
Oui, et en particulier les filles.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, on a utilisé le terme de caméléons sociaux pour décrire ces jeunes femmes, ces adolescentes, qui, comprenant bien qu'elles sont différentes et ne comprenant pas bien le sens de toutes ces interactions sociales, conventions, dragues, la mode, etc., décident de faire comme si, imitent, pour se fondre un peu dans la masse, comme des caméléons, et pour essayer justement de s'intégrer le mieux possible, sauf que ça ne marche pas toujours très bien, et puis c'est surtout très épuisant. Et ça rend peut-être compte de la raison pour laquelle les femmes seraient sous-diagnostiquées. On a beaucoup dit que c'était une pathologie masculine, et probablement qu'il y a aussi, on en rencontre beaucoup, un sexe ratio plus équilibré, mais les filles tendraient à plus compenser.
Séverine Leduc.
Oui, ça se voit moins du coup. Donc, elles ont des intérêts souvent spécifiques qui sont plus socialement faciles à partager avec leur père. Et puis, du coup, ça va passer plus inaperçu et pourtant, c'est compliqué.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Bienvenue. Vous habitez Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Vous êtes la mère de Gabriel, 13 ans, en classe de 4e. Et vous regrettez que les médias parlent surtout des autistes sévères ou, à contrario, des autistes Asperger et qu'on ne parle pas assez peu des autistes du milieu?
En fait, c'est surtout que ce genre de cas particulier avec des intelligences fulgurantes. Alors, bien sûr, mon fils a ce genre aussi d'intelligence par moment, mais c'est pas ce qu'on voit forcément à la télévision. Et donc, du coup, très souvent, on a ce genre de réaction auprès des gens. Dès qu'on leur dit « mon fils est autiste de haut », alors je dis soit de haut niveau, soit Asperger, ça dépend des personnes qui le suivent. J'ai eu les deux termes, donc bon, voilà. Donc, en fait, il n'a pas de retard intellectuel. Et souvent dans ce cas-là, il y a en effet des comme s'il était petit, il retenait toutes les couleurs des personnages et des dessins animés, était capable de les représenter exactement au détail près, les drapeaux, tous les drapeaux à 3 ans, c'était les drapeaux qui l'intéressaient. Donc oui, il y a ce genre de spécificité, mais pas au point de, enfin en tout cas pas autant ce qu'on voit à la télévision. Et donc souvent les gens, quand on leur dit en effet que notre fils est autiste, nous disent ah bah il doit avoir une super mémoire, ou il doit être super bon en maths, ou ceci ou cela. Enfin il y a beaucoup de clichés en fait. Et quelque part ça donne l'impression que ok il est autiste, mais s'il a un truc en plus ça va, ça passe. Donc c'est assez dur pour nous et peut-être je pense aussi pour lui, parce que je pense qu'il ressent quand même les attentes des gens.
Comment ça se passe à l'école?
À l'école, ça se passe très bien, mais parce que nous, derrière, il est scolarisé en classe ordinaire, avec une AVS 15 heures par semaine. Il est en 4e, donc, et donc il a des très bonnes notes, mais parce qu'en fait, on retravaille tous les cours. C'est-à-dire qu'on doit donner du sens à tout ce qu'il apprend. Donc toutes les leçons sont reprises sous forme de fiches, synthétisées, on élimine tout ce qui est exempt, etc. au maximum pour vraiment lui permettre, enfin faire ce travail de synthèse que lui n'est pas capable de faire, puisque les autistes ont beaucoup de difficultés de planification et d'organisation de la pensée. Donc du coup, voilà, on fait tout ce travail pour lui en amont, pour lui permettre vraiment de cibler. Pareil pour les devoirs, en général, on note sous sa dictée, pour lui permettre vraiment de cibler, d'attacher son énergie à la résolution du problème ou à la recherche de la réponse, et pas à l'écriture, parce que, comme beaucoup d'autistes, en fait, il a plusieurs difficultés donc psychomotrices. Il y a des hypersensibilités, etc.
Merci beaucoup, oui. Gaëlle. Nous sommes contraints d'interrompre la conversation parce qu'il est déjà l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu ce matin. Merci, David Gourion, Séverine Leduc. Merci. Éloge des intelligences atypiques est publié chez Odile Jacob. Afsaneh Sabouy, votre papier L'autisme en 10 idées reçues est à lire dans Ça m'intéresse. Demain, nous allons vous aider à être un peu plus ambitieux dans votre vie. Pas au sens arriviste de Rastignac, le fameux personnage de Balzac, mais une ambition saine qui permet de déployer ses potentialités en accord avec soi-même. Si vous avez du mal à être ambitieux, n'hésitez pas à témoigner demain au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Alexandre Chenet et Maxime Ingrand.